Bien, ben, comme le programme l'annonçait, on va vous présenter quelques outils qui nous servent en quelque sorte à réfléchir et à penser ce que l'on essaye de faire. Au passage, ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il y a des modèles ou des théories didactiques, pour moi, un modèle, c'est quelque chose qui sert à travailler. Et qui sert à travailler, par exemple, des questions d'enseignement. Alors, pour travailler les questions d'enseignement, il faut penser l'enseignement et l'apprentissage et se donner des outils, en quelque sorte, c'est de ce point de vue-là intéressant. Ben, un modèle fournit ce qu'il peut fournir. Parfois, il y a des limites. Simplement, dans l'usage, on peut voir que un certain nombre d'outils peuvent permettre effectivement d'arriver à un certain nombre de choses. Alors, parmi les outils qu'on utilise, il y a essentiellement des outils issus des théories didactiques, comme l'a dit Yves Matron ce matin. Et plus particulièrement, on utilise un outil qui vient de la théorie dite anthropologique, la notion d'organisation mathématique. Alors, je vais vous présenter la notion d'organisation mathématique ponctuelle. Ce n'est que la version mathématique d'un modèle praxéologique qui nous a été proposé par Yves Chevalard. Bon, praxéologique, ça veut dire qui modélise à la fois praxis, les pratiques, et logos, le discours. Le modèle de Chevalard, vous allez le voir, permet en quelque sorte de conjuguer et de lier ce qui est de l'ordre de la raison et ce qui est de l'ordre de la pratique. À quoi ça me sert ou à quoi ça nous sert dans l'équipe Ampère? Ben, par exemple, à répondre à la question « Que devront savoir et surtout savoir faire les élèves une fois l'enseignement achevé ?» Une fois qu'un chapitre est terminé, qu'est-ce que les élèves vont savoir faire qu'ils ne savaient pas faire auparavant? Si vous faites Pythagore, que devront savoir faire les élèves une fois que vous aurez fait Pythagore? Alors, c'est sûrement pas simplement énoncer le théorème. Alors, notion de praxéologie ponctuelle et d'organisation mathématique ponctuelle, c'est une introduction, puisque vous verrez avec Yves qu'ensuite, il y a des praxéologies locales, régionales, globales, etc. Bon, certains d'entre vous le connaissent sûrement, ce modèle, qui est dit des 4 T. 4 T comme un grand T qui veut dire type de tâche, un petit T qui veut dire technique, un θ qui veut dire technologie, et un θ majuscule qui veut dire théorie. Alors, pour vous présenter ce modèle, bah, par exemple, des types de tâches. Alors, ce sont des exemples que j'ai pris dans les textes d'Yves Chevalard. Il donne comme exemple des exemples qui ne sont pas simplement mathématiques, parce que c'est un modèle qui peut s'appliquer à toute l'activité humaine, dit-il. Exemple, balayer une pièce. Fermer une fenêtre. Diviser un entier par un autre. Résoudre une équation du second degré, rechercher toutes les isométries d'un polygone régulier. Je faisais ça quand je faisais la préparation en CAPES encore. Déterminer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, analyser une séquence didactique, construire une séquence didactique, dynamiser l'enseignement de telle partie du programme, par exemple. Avec au passage une difficulté que je pointe tout de suite parce qu'on la retrouvera peut-être tout à l'heure, c'est une alerte. Il va y avoir nécessairement une distinction entre genre de tâche et type de tâche. Si je prends un verbe d'action comme calculer, c'est un genre de tâche qui va renvoyer à plusieurs types de tâches. Parce que je peux savoir calculer, par exemple, savoir faire la somme d'entiers, sans pour autant être capable de calculer une intégrale. Savoir avoir une certaine importance dans les analyses qu'on va faire, et en particulier, ça a aussi une importance quand on débat avec des gens qui ne sont pas spécialistes d'une discipline. Si vous prenez, par exemple, le socle commun des connaissances, vous avez des grandes capacités, des grandes attitudes. Ce n'est pas parce qu'un élève sait faire quelque chose de spécifique dans un domaine qu'il est capable de faire quelque chose d'analogue dans un autre domaine. Ce n'est pas parce que je sais analyser une figure de géométrie que je sais analyser une radiographie comme peut le faire un médecin. Bon, je pourrais. Ça me paraît relativement important parce que, par exemple, à l'IRM de Clermont, un temps, on a travaillé sur, dans les années 80-90, sur ce qu'on appelait le programme des programmes de développement de l'intelligence, le PUI par exemple, programme d'entraînement de l'intelligence, dû à Feuerstein, où justement un postulat de ces programmes d'entraînement était qu'en travaillant certaines capacités, on allait les retrouver un peu dans tous les domaines. Par exemple, savoir analyser. C'était une capacité que ce programme entraînait. Alors, ce qu'on a pu vérifier, c'est que des élèves de 5e, par exemple, sur les fichiers qui étaient donnés dans ce cahier, étaient capables d'avoir des performances analogues à celles d'étudiants de classe préparatoire, mais en mathématiques, c'est pas parce qu'ils savaient réussir ces cahiers, les épreuves qui étaient données dans ces cahiers, que pour autant ils réussissaient en mathématiques. Ils restaient en échec. ce qui nous a fait en quelque sorte suspecter effectivement le fait qu'on puisse simplement s'occuper de grandes capacités comme ça sans les spécifier. D'où cette distinction entre type de tâche et genre de tâche. Je pointe le problème, il n'est pas nécessairement très simple de distinguer type de tâche et genre de tâche. Alors, pour vous donner un exemple d'une tâche problématique, a priori, soit par exemple à résoudre dans R+, l'équation x2 plus 10x égale 39. Bon, ça vous savez faire. Et je vais vous proposer une technique que certains d'entre vous connaissent sûrement, mais que beaucoup de professeurs de mathématiques ne connaissent pas, qui est la suivante. Je prends 10, je le divise par 4. Le 10, bien sûr, vous voyez d'où il vient. Hein. Ça me donne 2,5. Je prends 2,5, je l'élève au carré, je multiplie par 4, ça me donne 25. J'ajoute 25 à 39, 64. Je prends la racine carrée de 64, ça me donne 8. Et j'enlève à 8 deux fois 2,5. Le 2,5 qui vient d'ici, là. Et je trouve 3. Ça marche. C'est une technique pour résoudre des équations de ce type. Qui peut me dire d'où ça vient, ça ? Voilà, Al-Khwarizmi. Plutôt qu'Al-Khwarizmi, vous aviez, par exemple, sur une tablette paléo-babylonienne, moins 1800 avant Jésus-Christ, quelque chose d'analogue. Sur une tablette, on pouvait lire, j'ai additionné la surface et mon côté de carré, 45, traduisez la surface x2, et mon côté de carré plus x, ça donne 45. Tu poseras 1 à la wasitum. Alors 1, c'est parce qu'on additionne simplement le côté du carré. Bon, faut le savoir. Tu fractionneras la moitié de 1, 30. Oui, la moitié de 1, c'est 30 parce qu'on est en système sexagésimal. Tu multiplies 30 et 30, 15. Oui, 30 et 30, 30 c'est la moitié, une moitié, ça fait un quart, 15. Tu ajouteras 15 à 45, 1. 1 en est la racine carrée. Tu soustrairas le 30 que tu as multiplié de 1, 30. 30 est le côté du carré. Ça ressemble grosso modo à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ça, c'est des techniques. Donc vous voyez déjà, il y a une tâche, une technique, mais probablement que la tâche est simplement le représentant d'un type de tâche. Alors, question, comment justifier ce type de technique? Comment justifier que la technique est adaptée à la tâche? C'est-à-dire que ça donne bien la réponse à la question posée. Je vais reprendre la technique, sa décomposition. Est-ce qu'on trouve dans Al-Khwarizmi? Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement exactement ce qu'on trouve dans Al-Khwarizmi, mais c'est une justification géométrique qui est la suivante. Vous dessinez un carré qui va représenter le x2. À côté, vous allez représenter un rectangle dont la largeur va être 10 et l'autre côté va être x, la chose que vous cherchez. Ce rectangle que j'ai colorié en vert, vous le partagez en 4. Ça revient donc à diviser 10 par 4, au moins au niveau de la longueur ici, ce qui vous donne 2,5. Donc vous avez 4 petits rectangles de largeur 2,5. Vous les prenez, vous les déplacez, et vous les positionnez comme indiqué ici. Ça fait presque un carré, mais pas tout à fait. Ceci dit, vous connaissez la surface de cette figure-là, c'est toujours 39. C'est presque un carré, je vais le compléter en carré avec les petits carrés rouges. Chaque carré rouge, c'est un carré de côté 2,5 sur 2,5, il y en a 4. Donc vous comprenez pourquoi on a élevé 2,5 au carré, qu'on l'a multiplié par 4 et on a obtenu 25. Maintenant, quelle est la surface du carré que je viens d'obtenir? C'est 25 plus 64.
Plus 39.
C'est 25 plus 39, 64. Vous en prenez la racine carrée, vous avez le côté du carré à bord vert et rouge. Et pour obtenir la valeur de la chose, de l'inconnu, il faut enlever deux fois la longueur du petit carré rouge, c'est-à-dire deux fois 2,5. Donc à 8, vous enlevez deux fois 2,5, vous trouvez 3. Voilà une technologie. On a essayé de proposer ça à l'APM, au bulletin vert. Ils nous ont dit que c'était trop exotique pour que ça puisse paraître dans le bulletin vert. C'est un peu étonnant parce que c'est quand même historique. C'est... Bon. Alors, si j'avais à enseigner cette façon de résoudre des équations du second degré, je pourrais vous proposer en exercice les exercices suivants. Et vous pourriez vous entraîner à le faire. Soit résoudre x2 plus x égale 2. Je vous laisse un petit moment et vous le faites. Allez. Je peux peut-être revenir en arrière, non? Juste comme ça, pour vous mettre en main, c'est pas... Bien. Ben, vous avez fait un petit exercice d'entraînement, c'est-à-dire la mise en application d'une technique. Peut-être une remarque. Bien que ce soit un texte un peu ancien de Chevalard, on peut peut-être remarquer ici l'importance de ce qu'il appelait autrefois, il y a quelques années, un dispositif. C'est-à-dire que même chez des gens comme Al-Khwarizmi, qui est présenté souvent comme le fondateur de l'algèbre, c'est des solutions de ce type qu'on va trouver, c'est-à-dire des justifications géométriques. Parce que n'ayant pas en dispositif le matériel qui s'appelle le calcul littéral, il ne pouvait présenter que les techniques qu'il proposait sur des exemples. L'intérêt des figures géométriques, c'est que contrairement aux exemples numériques, c'est que les figures géométriques permettent en quelque sorte de présenter les choses de façon générique. Ici, là, à gauche, l'algorithme avec 10 divisé par 4 porte sur un exemple numérique particulier, alors que l'illustration qui est faite avec des figures géométriques est beaucoup plus générique. Et ça, il faut attendre Viète et Descartes pour qu'on puisse avoir un dispositif avec le calcul littéral qui lui donnera une solution en toute généralité et qui pourra ensuite dispenser de refaire le raisonnement qui conduit au résultat, puisqu'on aura une formule qu'on pourra appliquer directement. Donc, si je reprends, j'avais un spécimen de tâche. Ensuite, je peux demander aux élèves d'en résoudre d'autres spécimens, je les entraîne, et je pourrais proposer, par exemple, non plus peut-être en exercice, mais en problème, résoudre dans une autre tâche, qui serait la suivante, résoudre dans R+, x2 moins 10x égale 39. C'est ce qu'on va trouver dans la plupart des manuels sous forme de problème. Ici, vous n'avez plus, en quelque sorte, la technique adéquate, il va falloir la réinventer. Alors, l'inventer à partir de ce qui a été vu auparavant, mais la technique, en quelque sorte, n'est pas celle qu'on a vue précédemment, puisque là, en quelque sorte, il faudra, à l'intérieur d'un carré qui va représenter x2, enlever un rectangle qui va être supposé représenter votre 10x. Vous pourrez éventuellement le partager en 4, le transformer pour faire apparaître un carré. Il faut bricoler la technique, il faut l'inventer pour arriver à résoudre ce nouveau type de tâche. Bon, autre exercice, j'avais pensé, si on pose par exemple l'algorithme que l'on a vu sur une plaquette paléo-babylonienne, comment justifier cette technique? J'ai additionné la surface et mon côté de carré 45, tu poseras 1 à la voisitum, tu fractionneras la moitié de 1 à 30. Au lieu de partager en 4, on peut dire qu'ici il partage en 2. Oui, ayant partagé en deux, il laisse un des rectangles sur le côté, il en met un autre au-dessus, ce qui fait qu'il manque un petit carré, et ainsi de suite, la technique en découle. C'est une variante de la technique que je vous ai présentée tout à l'heure. Simplement ici, ce qui complique un peu les choses, par exemple pour des élèves, c'est le fait qu'on travaille en base 60. Bon. Alors, quelques remarques sur les techniques et les tâches. Parce que c'est là, avec les techniques et les tâches, que commence à se constituer ce qu'on va appeler une organisation mathématique. Ma première remarque, c'est qu'une technique a une portée. La technique que je vous ai présentée a un domaine d'application. Par exemple, on pouvait résoudre x2 plus 10x égale 39, mais on ne pouvait pas résoudre x2 moins 10x égale 39. Une autre technique à portée limitée, ça serait la recherche d'entier qui serait solution. Avec la technique suivante, si un entier est solution, s'il vérifie x2 plus 10x égale 39, ça doit être un diviseur de 39. Si c'est un entier diviseur de 39, je n'ai pas 36 000 choix, ça peut être 1, 3, 13 ou 39. J'essaye et je trouve 3. C'est une technique à portée très limitée, mais qui fonctionne pour les entiers. Alors, il y a aussi une question de reconnaissance institutionnelle des techniques. C'est-à-dire certaines techniques ne vont pas être reconnues dans certaines institutions. Alors un exemple hyper bateau, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est par exemple soit à comparer 13 sur 22 et 14 sur 23. Ben, je vous affirme sans problème que 14 sur 23 est supérieur à 13 sur 22 pour la raison suivante, c'est que si dans votre classe vous avez 13 filles sur 22 élèves et qu'il arrive une fille de plus, il y en aura 14 sur 23 et la proportion de filles aura augmenté. Par conséquent, 14 sur 23 est supérieur à 13 sur 22. C'est peut-être pas ce que l'institution classe de mathématiques attend. Et cependant, bon,
c'est Claire Margolin, c'est imparable.
Yves dit c'est imparable. Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Je disais donc, oui, la technique que je vous ai présentée tout à l'heure permet de réaliser toutes les tâches du type résoudre dans R plus AX2 plus BX égale C avec des coefficients A, B et C positifs. C'est à ce moment-là ce qu'on appelle un type de tâche. C'est-à-dire que la tâche que vous avez donnée tout à l'heure était la représentante d'un type de tâche. Alors, ce n'est pas inintéressant parce que lorsqu'on donne un exercice à des élèves, c'est une tâche, c'est un spécimen de tâche. En quoi est-il représentatif d'un type de tâche ? Alors, pour le prof, ça peut être évident, mais encore convient-il que le prof montre aux élèves le type de tâche dont il est question. Et je passe la parole à Yves.
Et la souris avec.
Oui, alors, bon, donc Robert vous a décrit les types de tâches et les techniques sur des exemples, et a indiqué aussi la fonction des technologies, c'est-à-dire un discours qui va permettre de justifier, de produire la technique, de la rendre compréhensible. Alors, ce schéma qui se résumait en 4T, comme il l'a dit, bon, porte le nom d'une organisation mathématique ponctuelle parce que, en règle générale, et même par définition, il ne permet que de résoudre un seul et même type de tâche. Bon, donc, si je monte maintenant d'un cran, la technologie, à son tour, peut être justifiée. Et ce qu'on va tenir sur la technologie, le même type de discours, enfin un discours du même type que celui que l'on tient sur les techniques, tout au moins il va assurer la même fonction, et on va l'appeler le discours théorique, qui est très souvent assez évanescent dans les organisations mathématiques que l'on enseigne. Par exemple, dans la technique qu'il a montrée, et avec sa justification technologique à travers le dispositif des géométriques, du carré que l'on déplace, des bandes rectangulaires que l'on déplace. Bon, derrière, il y a tout un discours implicite sur la mesure des aires, sur les isométries, par exemple. Voilà quelques exemples qu'on peut appeler le discours théorique.
Et conservation des aires en décomposant et recomposant.
Oui, vas-y.
Conservation des aires en décomposant et recomposant, comme peuvent le faire les élèves dès le primaire et en sixième, par exemple.
Bien. Donc, ce discours-là, en règle générale, n'est pas interrogé au niveau de l'école. Ou encore, ces discours peuvent soit ne pas exister, soit relever de justifications non mathématiques. Bon, ça marche. Par exemple, c'est comme ça, en faisant comme ça, quand je déplace, ça marche, donc, puisque ça marche, je m'en contente. Alors, donc, ce que je disais, c'est que ce quadruplé est appelé une organisation mathématique ponctuelle, parce que ça permet de résoudre un seul type de tâche. Donc, on a vu les équations du type x carré plus ax, ou ax carré plus bx, égale C dans le cas où A, B et C sont strictement positifs pour l'exemple de l'équation, le premier type d'équation d'Al-Khwarizmi que Robert nous a montré. Alors, bien sûr, ici, en quelque sorte dans cette salle-là, il y a quelqu'un qui parle, soit c'est Robert, soit c'est moi. Et vous êtes censé écouter ce qu'on vous dit, etc. Certains connaissent déjà ce qu'on vient de vous présenter, d'autres pas. Donc, on peut considérer, en extrapolant, qu'on est dans une situation didactique, où des gens, nous deux, veulent faire changer votre rapport à certaines connaissances didactiques. Donc, pour certains d'entre vous, ce que l'on peut dire, c'est que on a essayé de vous amener vers une sorte de première rencontre avec la notion d'organisation mathématique ponctuelle, d'accord, ou encore avec le type de tâche qui consiste à définir ce que c'est qu'une organisation mathématique ponctuelle. Bon, dans ce cas particulier, c'était cette tâche-là. Ce qui va se produire lorsque on enseigne, je l'ai dit ce matin, c'est qu'il va y avoir toujours un moment où il va se produire une première rencontre avec un type de tâche, ou tout au moins avec des tâches du type. Ces rencontres pouvant avoir lieu de manière différée et pas de manière forcément chronologique. Je prenais l'exemple de la géométrie projective. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il une technique pour ce type de tâche ? Donc, y a-t-il une technique qui va permettre de définir ce que c'est qu'une organisation mathématique ponctuelle ? Alors effectivement, on peut essayer, parce que bien sûr, le travail qu'on va essayer de faire ensuite en travaux dirigés, c'est de concevoir, d'analyser des organisations mathématiques telles qu'elles peuvent exister dans le programme, et puis essayer de concevoir des situations, des activités d'études et de recherche qui vont nous permettre d'enseigner ces organisations mathématiques. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il des techniques pour repérer ces organisations mathématiques telles qu'elles peuvent exister à travers des programmes ou des manuels, etc., des ouvrages de mathématiques ? Oui, alors il y en a. C'est que, en règle générale, une tâche ou un type de tâche est déterminée par un verbe d'action. Bon, par exemple, déterminer à quoi est égale la différence 5-7. Voilà, une tâche du type soustraire de relatif. Démontrer que deux droites sont parallèles, etc. Vous avez quelques exemples ici. Calculer la somme des carrés des n premiers entiers naturels. Bon, donc, je vais devoir me poser la question qu'est-ce qu'on demande à ce que les élèves sachent faire à l'issue de l'enseignement ? Ça va donc nous permettre de repérer les types de tâches, notamment quand elles apparaissent peu clairement dans les observations de classe, par exemple, auxquelles on est confronté. Comme le disait Robert, des exemples comme calculer, dénombrer ne sont pas des types de tâches. Démontrer, ne sont pas des types de tâches, mais sont des genres de tâches, c'est-à-dire que il ne va pas y avoir une technique spécifique associée à calculer. Parce que s'il s'agit de calculer le produit de deux entiers naturels, c'est une chose. S'il s'agit de calculer une intégrale, c'est autre chose. Et parfois même, il n'y a pas de technique pour calculer certaines intégrales. Démontrer de même. Essayer d'enseigner la démonstration est une tâche didactique, pour le coup, d'une redoutable difficulté, chacun le sait, parce que il y a eu des tentatives de déductogramme ou autre, mais enfin, ça fonctionne pas à tout bout. Donc, si je reviens à mon exposé, ce que on vient de faire là, je viens de vous faire rencontrer pour la première fois, enfin une première rencontre, la tâche qui consiste, ou le type de tâche qui consiste à définir ce que c'est qu'une organisation mathématique ponctuelle. Le professeur de mathématiques dans sa classe va procéder de même. Il va essayer de trouver une situation qui va permettre d'organiser la première rencontre des élèves avec une tâche problématique dont la résolution va engendrer le savoir mathématique qu'il veut enseigner. Alors, généralement, lorsque on a rencontré ce type de tâche problématique, on va essayer de l'explorer, c'est-à-dire de, par exemple, de se placer dans quelques cas particuliers relativement simples, mais qui sont du type. Donc on va prendre des tâches un petit peu plus simples, mais du même type, et puis on va essayer des techniques là-dessus. C'est donc un moment où on explore et on commence à concevoir des techniques et qui sont traditionnellement notées tôt. Ici, par exemple, s'il s'agit de définir une organisation mathématique ponctuelle, eh bien, on va essayer dans une institution donnée, c'est-à-dire dans une classe, par exemple, pour ce qui nous intéresse, dans une classe du système tel qu'il est actuellement, sous certaines contraintes d'organisation et de programme, on va essayer de repérer quels sont les types de tâches, quelles sont les techniques standards associées qu'on va rencontrer traditionnellement, quels sont les discours tenus sur les techniques, etc. Alors, bon, il y a des méthodes, des techniques assez simples là-dessus. Par exemple, il y a des manuels dans lesquels on trouve des fiches méthodes qui permettent de rencontrer les types de tâches standards et les techniques standards attendues, bon, qui vont varier d'un programme à un autre, bien entendu. Les démonstrations de même, ça dépendra des organisations mathématiques du programme. Alors, un exemple. Ici, dans l'enseignement des mathématiques. Bon, voilà le type de tâche déterminée. Combien de cercles passent par n points? Bon, c'est un exemple que j'ai déjà utilisé ce matin, je crois. Bon, voilà un type de tâche que l'on peut dévoluer, imaginons, dans un système qui n'existe pas, particulier, hein, qu'on pourrait dévoluer aux élèves. Allez-y, essayez de vous attaquer à ce type de tâche. Bon, alors si je reprends les moments de l'étude, c'est-à-dire l'organisation didactique, bon, il va y avoir une première rencontre avec ce type de tâche. Bon, c'est la première fois que je vois cela. Tiens, je m'étais jamais posé la question. Y aurait-il des cercles qui passent par n points? Bon, si les points sont alignés, il y a des chances que non. On va voir. Donc, j'explore le type de tâche et sans doute, je vais me placer dans quelques cas particuliers. Par exemple, si n égale 2, si je prends 2 points distinctes, y a-t-il des cercles, combien, qui passent par ces 2 points? 3 à 3, ça devient un peu plus pénible, un peu plus difficile. 3 points non alignés, hein, bien entendu, et distinctes. Bien. Et donc, voilà que on explore ce type de tâche et en même temps que émergent des techniques. Parce que pour 2 points, bon, ben, je vais réfléchir. Je vais voir que, évidemment, le centre étant à égale distance des 2 points, je connais déjà quelques propriétés qui me disent des choses sur les points à égale distance de 2 autres. Bon, par exemple, la médiatrice, elle doit sans doute jouer un certain rôle. 3, alors là, c'est plus complexe. Autrement dit, en même temps que je viens de vous parler de 2, j'ai réfléchi, je me suis dit que les points étaient à égale distance, le centre était à égale distance, je viens de tenir un discours. C'est-à-dire, je viens de recourir à une propriété caractéristique de la médiatrice. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, ben, si je prends un point sur la médiatrice, il est à égale distance, donc il est centre d'un cercle qui va passer par ces 2 points, etc. Donc, je construis autour de ce type de tâche, pour certaines tâches particulières du type, n égale 2, pour l'instant, un discours, un bloc technologico-théorique, c'est-à-dire je vais me servir de théorème, je vais pouvoir justifier que si je pique mon compas sur la médiatrice, je vais pouvoir trouver un centre de cercle, etc. Alors, on continue comme cela et il va y avoir un moment où on va se mettre d'accord dans la classe sur le fait qu'effectivement, pour trouver le centre des cercles, il passe par 2 points ou par 3 points, la médiatrice peut être quelque chose d'assez intéressant. Et on va trouver certains résultats, par exemple que le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est le point de concours des médiatrices. Eh bien, on va l'accepter en tant que tel dans notre collectivité parce qu'on a un discours raisonné qui permet de le justifier, bien entendu. On n'accepte pas des vérités toutes faites. Et ça, c'est la grande révolution des mathématiques grecques du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et, eh bien, il va y avoir un moment où on se met d'accord là-dessus et on va institutionnaliser cette organisation mathématique qui est donc constituée du type de tâches que j'aurai partiellement exploré, des techniques qui recourent à la médiatrice, des technologies qui justifient que je recours à la médiatrice, quant aux théories, elles sont peut-être extrêmement lointaines. Viendra un moment où il faudra que je m'exerce, comme l'a montré Robert tout à l'heure, sur l'exemple des équations à la Al-Khwarizmi en vous demandant de résoudre une équation. Et donc, je vais essayer de mettre à ma main les techniques, de me roder à ce travail des techniques et des organisations mathématiques. On a dévié un petit peu du type de tâche originelle, puisqu'on est parti ensuite sur x carré moins 10x égale 39. Et donc, il va falloir que j'adapte et que j'invente une nouvelle technique, etc. Donc, je vais travailler l'organisation mathématique, sans doute au niveau technique et au niveau technologique, pour pouvoir inventer une manière de faire qui va me permettre de résoudre la tâche dans le cas de x carré moins 10x égale 39. Et puis, il va y avoir un dernier moment qui va être un moment où je vais évaluer l'organisation mathématique que j'ai mise en place. C'est-à-dire, je peux évaluer sa portée. Est-ce que ça me permet de résoudre toutes les tâches du type? Et puis, un moment où je vais montrer à d'autres que mon rapport à cette organisation mathématique est conforme à ce qui est traditionnellement attendu dans l'institution dans laquelle je me place, c'est-à-dire où on va évaluer mon rapport à l'organisation mathématique. C'est ce que le professeur fait en donnant des devoirs surveillés, des interrogations écrites, etc. Donc, si on récapitule ce que l'on a à travers ces moments didactiques, on a ici trois moments. Alors, comme je le reprécise de nouveau, ils peuvent être chronologiques, mais parfois ils ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que à des moments dans lesquels on va explorer ou on va construire le bloc technologique, ben, on va s'apercevoir que il y a des techniques qui nous ont échappé. Donc on va revenir sur les techniques et puis on va retravailler ce qui permet de les justifier. Donc il y a une espèce de dialectique. Donc ce qui va apparaître, c'est dans ces six moments un premier groupe qui constitue ce qu'on appelle les activités d'études et de recherche, donc dans lesquelles, à travers lesquelles on va travailler, on va essayer de faire travailler les élèves, qui sont constitués du moment de la première rencontre, de la rencontre avec le type de tâche, d'un moment où on l'explore et où on essaye de définir des techniques et puis de les stabiliser, et un moment où on essaye de justifier, c'est-à-dire de construire le savoir mathématique, les théorèmes, les définitions, etc., qui vont permettre de justifier et de comprendre la technique, comme Robert vous l'a montré tout à l'heure. Ensuite, traditionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment où il va falloir que les choses se décantent un petit peu. On a tâtonné, il y a des idées qui ont émergé dans une classe, etc. Et puis on les a abandonnées parce que leur portée n'était pas très grande, ou alors on s'est aperçu que c'était des prémices d'idées, mais enfin que quand on grattait un petit peu, c'était erroné. Donc il va falloir faire une synthèse. C'est donc le moment de l'institutionnalisation où on va décanter en quelque sorte l'activité mathématique qui a eu lieu pour en retenir l'essentiel que l'on va partager, qui va être un savoir partagé dans le groupe, partagé dans notre groupe et partagé dans les autres groupes, dans les autres classes du collège ou du lycée, et qui est le savoir mathématique tel qu'on doit l'apprendre. Puis, un moment où on va s'entraîner, je l'ai dit, donc un moment du travail de l'organisation mathématique et de la technique, et ça, c'est le rôle des exercices et des problèmes que les professeurs font passer aux élèves, et puis un moment de contrôle, qui est le moment de l'évaluation. Je repasse la parole à Robert.
Oui, c'est un retour sur les notions de technique et de technologie. Avec la façon dont une institution est capable d'absorber des techniques et des technologies. Alors j'ai pris l'exemple de l'arbre, parce qu'il y a quelques années encore, lorsque les profs de lycée donnaient des problèmes de probabilité, un arbre pouvait être considéré en quelque sorte comme un élément heuristique que l'élève était autorisé à faire sur le brouillon, mais à aucun moment ça pouvait être un élément de preuve. Il fallait que l'élève développe des probabilités conditionnelles et arrive au résultat avec des probabilités conditionnelles. Depuis quelques années, depuis en particulier les nouveaux programmes qui ont été mis en place en 2000 sous la houlette de Claudine Robert, l'arbre aujourd'hui est considéré comme un élément de preuve. C'est-à-dire dès lors qu'un élève sait faire un arbre, il peut arriver à un résultat. Alors là, l'arbre que je vous présente, c'est un problème classique, qui d'ailleurs n'est pas sans poser de questions. Dans une population donnée, vous savez qu'il y a à peu près une personne sur 1000 qui a une maladie donnée. Vous faites passer un test, et ce test, si la personne est malade, va s'avérer positif, c'est-à-dire va vous permettre de déclarer qu'effectivement il est malade dans 99 cas sur 100, et dans un cas sur 100, bien sûr, le test va être négatif. En revanche, si la personne est saine, non malade, non atteinte par la maladie, dans 99% des cas, le test va être négatif, et dans 1% des cas, le test va être positif. Question, quelle est la probabilité pour qu'une personne ayant un test positif soit atteinte de la maladie grand A? Donc vous faites ça avec un arbre, et vous trouvez comme réponse 9%. Au passage, et Claudine Robert, je crois, l'avait mis dans les commentaires du programme à propos des probabilités, il semblerait bien qu'avec les élèves, on ne puisse pas en rester là, parce que si vous avez un test médical qui déclare, lorsqu'il est positif, que vous avez seulement 9% de chance d'être atteint de la maladie qu'il est censé détecter, c'est pas très formidable et ça ne rassure pas trop sur la médecine. Donc comment fait la médecine pour parer à ce type de situation? Alors si j'ai bien compris ce qu'écrit Claudine Robert, la réponse c'est que il faut travailler sur la population. Si par exemple il s'agit du sida et que vous avez une population d'homosexuels, les pourcentages de départ sont complètement différents et vous allez augmenter fortement la probabilité pour qu'une personne ayant un test positif soit atteinte de la maladie. Je crois qu'en termes de dynamique d'études, lorsqu'on a un exercice de ce type et qu'on arrive à ce type de réponse, c'est quelque peu insatisfaisant. Alors je présente ça parce que d'une part, donc, ce type de solution, ce type de technique, la technique des arbres, et je crois que les élèves n'ont pas de difficulté à admettre que d'une branche à l'autre, on multiplie pour obtenir les résultats qu'on a en bout de chaîne, en bout d'arbre, en bout de branche. La justification théorique, c'est bien sûr les probabilités conditionnelles, certes. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années, ce type de choses était récusé par les professeurs comme étant une technique de validation. Il y a aussi quelques années, quand j'étais à l'IRM de Clermont, il y a une personne qui est venue de l'IRM de Strasbourg et qui nous a dit « Mais quand moi j'ai un problème comme ça, ce que je fais, c'est que j'inverse l'arbre. » Et j'avoue qu'à l'IRM de Clermont, personne ne savait inverser un arbre. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, les profs de lycée savent inverser un arbre. C'est-à-dire que vous partez de T+, T-, comme point de départ, vous partez ici, le point de départ, et ensuite vous remplacez A par T+, en bas, la NA par T-. Et à partir de l'arbre que vous avez sous les yeux, vous êtes capable d'inverser l'arbre et par conséquent de constituer en quelque sorte la réponse à la question qui est posée. Les profs de lycée m'ont dit qu'aujourd'hui c'était une technique usuelle. Non, c'est l'inversion de l'arbre? Non, pas vraiment? Bon. Petit exercice plus tard, si vous voulez, vous pourrez le faire. C'est-à-dire qu'avec cet arbre-là, il n'est pas difficile d'en constituer un autre ou simplement vous inversez les rôles de T et de A. Vous inversez l'arbre. Alors je vous propose une autre technique qui, me semble-t-il, à l'heure actuelle, n'est pas institutionnellement encore admise véritablement, mais qui pourrait être utilisée en classe de troisième, qui serait pour déterminer la probabilité qu'on me demande, quelle est la probabilité pour qu'une personne ayant un test positif soit vraiment malade, il s'agirait d'une technique qui consiste en une composition d'une urne. Vous avez des millièmes, vous avez des centièmes. Je vous précise ma technique. Comme je vais intituler des entiers, je vais partir de 100 000 individus. Bon. Ensuite, sur 100 000 individus, je traduis les données. Grand A, il y en a 1%. Oui, il y a une personne sur 100 qui est malade. Une personne sur 1000, pardon, qui est malade. Donc vous en avez 100. Donc ils ne sont pas malades, vous en avez 99 900. Ensuite, T+, vous savez que si la personne est malade, vous en avez 99 sur 100 qui sont atteintes qui auront un test positif. Donc ici, comme j'ai 100 personnes dans cette partie de l'urne, j'en ai 99 qui ont un test positif et une qui a un test négatif. Même chose de l'autre côté, T+, si vous n'êtes pas malade, T+, ça sera uniquement dans 1% des cas que vous aurez un test positif, donc vous aurez 999 personnes. Et donc 98 901 à côté. Je fais le bilan des T+. Du côté de A, j'en ai 99. Du côté des non-A, j'en ai 999. Je fais la somme. Et à ce moment-là, si je veux le pourcentage des T+, qui sont de type A, Ben, vous en avez 99 sur 1098. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage et ça vous fait à peu près 9%. Là, c'est une technique qui est uniquement basée sur la proportionnalité et qui, me semble-t-il, sera accessible à des élèves de collège. Je dis ça parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est le genre de technique qui, me semble-t-il, n'est pas encore complètement admise, mais qui pourrait voir à se développer.
Donc là, du 2 au 3e, c'est ce qui est préconisé.
C'est ce qui est préconisé ? Sûr ? Bon. Ouais. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis 2 ans. Non, mais c'est très bien si c'est comme ça. Hein. Comment ?
Dans l'opération finale, il y a parfois 100 à écrire. Si on écrit 9%,
derrière. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ça, bah, c'est passé à autre chose. Zut, je suis où là ?
Je ne sais pas où tu es là. Bon.
Toujours à moi là.
Oui.
Oui, excusez-moi. Bon, bah, c'est... Bon, oui, pourquoi pas. Vous avez raison. L'obsolescence me frappe pas.
Mais non.
Oui, si. Sur le rôle des technologies, et ça va redonner en quelque sorte tout son sens aux propriétés mathématiques qu'on peut démontrer, parce que les technologies, c'est donc un discours rationnel. Leurs fonctions, les fonctions de ce discours rationnel sont multiples. Première fonction, c'est de justifier l'adéquation d'une technique à une tâche, à un type de tâche. Deuxième fonction, c'est de pouvoir contrôler une technique. Troisième fonction, c'est de rendre intelligible une technique, l'expliquer, l'éclairer. De ce point de vue-là, il me semble, par exemple, que la composition des urnes éclaire les opérations qu'on peut faire, peut-être plus qu'un arbre. Peut-être. Encore que, bon. Ensuite, un rôle important également des technologies, c'est qu'elles permettent de produire des techniques. Par exemple, en géométrie, si vous vous intéressez à la géométrie, en particulier à tout ce qui est construction géométrique, mais il ne serait pas intéressant, dès lors qu'on démontre une propriété géométrique, se demander en quoi elle peut permettre une construction. Par exemple, dans le dernier petit X, vous avez un exercice qui consiste à se demander comment construire le centre d'un cercle sans utiliser les médiatrices. Et l'exercice propose d'utiliser le fait que l'angle au centre vaut le double d'un angle inscrit. Mais avec cette propriété, vous avez une technique que la propriété justifie et qui permet de retrouver le centre d'un cercle. Un prof là de Clermont dernièrement a eu l'expérience suivante. Il a demandé à ses élèves, effectivement, il espérait qu'ils allaient utiliser la médiatrice pour retrouver le centre d'un cercle. Il y a des élèves qui l'ont dit, même si regardez, le centre d'un, sachant que le cercle était tracé par des camarades sur une feuille de papier, ils passaient donc la feuille de papier à d'autres. Et les petits copains disaient, mais monsieur, c'est simple, regardez, il y a un trou dans la feuille, j'ai donc le centre du cercle. Une technique institutionnelle qui n'était pas admise par l'institution. Donc je disais que les technologies, un rôle important, c'est aussi de produire des techniques. Alors, autre remarque, et ça qu'on essaye, quand on s'essaye à distinguer technique et technologie, c'est pas toujours évident. La raison en est que souvent il est difficile d'opérer la distinction entre les deux parce que la technique embarque souvent du discours et par conséquent elle embarque de la technologie. Et par conséquent il est difficile de distinguer les deux. Exemple, avec la règle de 3, sachant que 8 sur 7 valent 10 francs, c'est un vieil exemple, hein, combien valent 24 sur 7 ? Ben, la règle de 3 consiste à produire un petit discours, c'est la technique. Mais en même temps, ce discours va justifier la technique. Si 8 sur 7 valent 10 francs, 24 sur 7, soit 3 fois 8 sur 7 valent 3 fois plus, soit 3 fois 10 francs, soit 30 francs.
C'est pas la règle de 3.
Exact. La règle de 3, c'était effectivement une chansonnette. Si 8 sur 7 valent 10 francs, combien vaut 1 sur 7, etc. Pardon. C'est la linéarité. Ça va pas.
Dis donc, il t'épargne pas. Hein. C'est à moi, je crois.
Bon, je repasse à la parole à Yves Matron qui dira moins de bêtises que moi.
Ça, c'est pas sûr. Oui, alors, bon, on avait vu les organisations mathématiques ponctuelles autour d'un type de tâche. Évidemment, les choses seraient très simples si le monde mathématique était organisé de cette façon-là. Ce serait même trop simple. Donc, ces organisations ponctuelles vont commencer à s'agréger les unes aux autres et constituer des organisations mathématiques plus complexes. Alors, le premier niveau de complexité, c'est les organisations mathématiques locales. Alors, j'ai pris un exemple qui vient d'un vieux programme, celui de 85, je crois, enfin 86, ou etc., où on avait, sur le théorème de Thalès, j'ai donc... oui, il y a Sylvie qui connaît, sans doute. Ah oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, regardez ce que nous disait... Alors, je n'ai pas tout recopié le programme, hein, je vous fais grâce, et puis en même temps, je n'avais pas besoin pour mon exemple de le faire. Donc, il nous énonçait, bon, énoncé du théorème de Thalès relatif au triangle, alors ça devait être en troisième, ça. Connaître et utiliser dans une situation donnée le théorème de Thalès relatif au triangle et sa réciproque. Voilà ce qu'on lisait. Savoir construire une quatrième proportionnelle. Et puis, appliquer le théorème de Thalès à des problèmes de construction, comme par exemple la moyenne géométrique. Bon. Alors, quand je regarde ces choses-là, eh bien, je peux, avec les types de tâches, les classifier en disant que c'est... J'ai ici, je vous ai donné trois types de tâches distinctes. Le premier, c'est calculer les longueurs dans un triangle, en situation de, dans des triangles, la situation de Thalès. Ça, c'était connaître et utiliser dans une situation donnée le théorème de Thalès relatif au triangle et sa réciproque. Bon, donc, je vois que ce type de tâche fait partie de cette connaissance-là. Ensuite, construire un segment de longueur à fois la longueur, un certain nombre de fois, là j'ai sauté un mot, la longueur d'un segment donné, donc une fraction de fois, un certain nombre de fois, alors c'était ce qu'on appelait une quatrième proportionnelle. Et puis, par exemple, utiliser le théorème de Thalès, bon, et puis sa réciproque, reconnaître si deux droites sont ou non parallèles. Voilà donc ici trois types de tâches. Bon, qui relève de cette organisation mathématique. Alors, je vois que j'ai donc ici un élément technologique, c'est-à-dire le théorème de Thalès, qui me permet de justifier et de produire les techniques qui vont me permettre de réaliser, d'accomplir ces trois types de tâches-là. Et donc, sur ce petit exemple, je vois que la notation se complexifie un petit peu. J'ai toujours le théorème de Thalès qui est état ici. Bon, les éléments théoriques, je les ai laissés de côté. Et puis, j'ai des TI, I variant de 1 à 3. Bon, c'est pas bien fort, mais enfin. Et sans doute des techniques qui vont un petit peu bouger pour accomplir chacun de ces types de tâches. Bon, c'est ce qu'on va appeler une organisation mathématique locale. Bon. Et ça correspond en règle générale au chapitre, au thème du théorème de Thalès. Bon, c'est un peu plus compliqué, il y a un petit peu plus de types de tâches, sans doute, que l'on fait découvrir aux élèves lorsqu'on enseigne le théorème de Thalès en quatrième et en troisième. Enfin, c'était uniquement pour l'exemple que je l'ai pris. Donc, on voit que j'ai des organisations mathématiques qui s'agrègent ici autour du théorème de Thalès en tant qu'élément technologique. Et ça devient donc des organisations mathématiques locales. Alors là, je vais monter d'un cran et je prends le programme de mathématiques qui existait avant la réforme de 1970, avant la réforme des mathématiques modernes. Alors, je vous fais grâce de la lecture du programme et de l'étude des manuels parce que c'est relativement complexe. Mais voilà un petit peu ce qui se passait. Alors j'ai essayé de faire un organigramme de la chose en prenant un livre qui était assez utilisé à cette époque-là qui s'appelait Le Monge et Guinchamp, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Et pas Monge et Guinchamp, mais le livre en tout cas. Et je m'aperçois que ça organisait vraiment tout un pan du programme de mathématiques, ce théorème de Thalès. C'était pas cantonné uniquement au chapitre sur le théorème de Thalès. Alors là, il est monté d'un cran, ce théorème de Thalès. Il devient élément théorique, vous voyez. Et avec ce théorème de Thalès, j'engendrais ce θ1 qui est le théorème sur les triangles dits homothétiques par le sommet. Hein, c'est comme ça que ça s'appelait, quoi. Bon, il y avait une homothétie de centre le sommet. Et avec cette chose-là, j'arrivais à à étudier les triangles semblables. Et alors là, comme Robert le rappelait ce matin, les triangles semblables et les cas d'égalité des triangles, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que, regardez un petit peu θ2, tout ce qu'il fait, il engendre tout ça, tout ce qui est ici. C'est-à-dire les relations métriques dans le triangle rectangle, on les démontrait comme ça, le théorème de Pythagore, évidemment, en tant que relation métrique, les rapports trigonométriques d'un angle aigu, donc sinus, cosinus, tangente et même cotangente, la relation fondamentale de la trigonométrie, la puissance d'un point par rapport à un cercle, etc., etc. Et puis, il y avait un petit bloc qui était ici, qui était les représentations graphiques de fonctions linéaires et affines, puisque, bien entendu, avec le théorème de Thalès, je pouvais démontrer que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'était une droite qui passe par l'origine, et puis je translatais, et j'avais la représentation graphique d'une fonction affine. D'accord ? Donc, on voit que l'organisation mathématique à l'intérieur du programme qui découlait du théorème de Thalès, il engendrait quasiment toute la géométrie plane, et un petit bout de géométrie analytique. Enfin, si on peut parler comme ça, au niveau de la troisième. Alors, évidemment, les organisations mathématiques, maintenant, sont beaucoup plus grosses, donc avec des ponctuels, des locales. Maintenant, c'est beaucoup plus fort, ça devient des organisations mathématiques régionales. C'est-à-dire que, si je reprends mon indexation, j'ai ici, au niveau théorique, un élément théorique qui est le théorème de Thalès qui engendrait, qui engendrait des sous-théorèmes, théorèmes sur les triangles homothétiques, les triangles semblables, les relations métriques, les lignes trigonométriques, etc., etc., qui ensuite engendrait tout un ensemble de types de tâches dont je me suis épargné la description, mais il faudrait reprendre le bouquin et regarder les exercices. Et donc, on voit que les choses se complexifient singulièrement pour une organisation mathématique de grande ampleur. Alors, finalement, si on récapitule, et on revient à ce que j'ai exposé ce matin, mais cette fois-ci avec une théorisation derrière, lorsqu'on va enseigner un sujet particulier, c'est-à-dire un seul type de tâche, comment trouver la longueur d'un côté d'un triangle dans un triangle rectangle, connaissant les deux autres, on a affaire à un sujet, c'est le même type de tâche chaque fois. Ensuite un thème, c'est-à-dire grosso modo ce qui va correspondre à un chapitre dans un programme, j'ai affaire à une organisation mathématique locale très souvent organisée autour d'un théorème qui engendre ensuite des types de tâches et des techniques. Puis, si je monte d'un cran encore dans les organisations de programme, j'arrive à des secteurs. Et là, j'avais pris, j'avais pris le secteur des nombres décimaux, je me souviens plus très bien, quelque chose comme ça. Et puis il y a un dernier niveau qui est le niveau des organisations mathématiques globales. Alors là, évidemment, avec mon exemple sur le théorème de Thalès, je suis obligé de sortir du cadre du collège. J'ai regardé un petit peu dans les fondements de la géométrie de Hilbert. Et évidemment, alors là, je vous fais grâce de son ouvrage, je n'ai fait que recopier la table des matières dans laquelle vous voyez que il envoie, disons, son ouvrage, son œuvre, à travers l'exposition des cinq groupes d'axiomes dont il montre qu'ils sont non contradictoires, consistants, etc., etc. Voilà, donc il fait ça. Ils sont indépendants, c'est le chapitre 2, ça, la compatibilité et l'indépendance des axiomes. Et puis j'arrive au chapitre 3 qui porte sur la théorie des proportions. Et là, je vois quoi ? Je vois qu'il est en train de construire un système de nombres, donc un demi-corps positif. Et puis, il démontre un théorème fondamental qui s'appelle le théorème de Pascal. Il bâtit donc son calcul, son corps, à partir du théorème de Pascal, et puis à partir de là, il arrive à cette partie ici, là, proportion et similitude, dans laquelle Il dit, voilà le théorème fondamental des proportions et des similitudes. Et c'est ce que nous, en France, on appelle le théorème de Thalès. Mais enfin, il écrit pas comme ça, bien entendu. Voilà. Bon. D'où découle l'équation de la droite et du plan, évidemment, comme le montrait le Monge et Guinchamp, d'ailleurs, de la réforme antérieure à la réforme des maths modernes. Alors là, j'ai une organisation mathématique qui devient extrêmement compliquée, puisque j'ai ici les grands θk qui sont constitués des cinq groupes d'axiomes qui vont ensuite engendrer des théorèmes dans lesquels on va retrouver le fameux théorème fondamental des similitudes, qui est le théorème de Thalès, qui engendre ensuite, vous connaissez maintenant, les types de tâches et les techniques correspondantes. Bon. Alors, je prends un exemple dans le programme de seconde pour vous montrer comment les choses vont fonctionner. Ah, ça y est, c'est parti à l'envers. Non, oui, c'est parti à l'envers. Bon, excusez-moi. Ah, voilà, là, c'est parti à l'endroit. J'ai pas effacé, j'avais mis à l'envers, j'ai pas effacé l'ordre. Bon, dans le programme de seconde, on a des thèmes. Bon, alors, c'est pas le mot thème ne s'applique pas de la même manière dans le programme de seconde et dans ce que je viens de dire, évidemment. Mais vous avez un petit truc qui est déterminé à un intervalle de confiance, vous voyez, avec 1 sur racine de n, etc. Et ça peut constituer un sujet. Bon, donc c'est ce qu'on va appeler une organisation mathématique ponctuelle. Voilà, bon, donc type de tâche dans un déterminé à un intervalle de confiance. Bon, si je remonte un petit peu dans mon programme, je vois qu'en fait, ce sujet rentre dans une organisation un petit peu plus complexe que je pourrais appeler un thème et qui s'appelle la simulation fluctuation d'échantillonnage. Je crois que c'est comme ça que le programme l'indique. Et donc ici, je suis à un niveau d'organisation déjà un petit peu plus élaboré, une organisation mathématique locale qui rentre dans le cadre de la statistique inférentielle du programme de seconde. Il y a une partie descriptive un petit peu assez petite et puis une partie statistique inférentielle. Donc voilà maintenant au niveau d'un secteur, c'est-à-dire d'une organisation mathématique régionale qui rentre dans le cadre de la statistique en seconde, qui est ce domaine-là. Et évidemment, quand je réunis les domaines, j'obtiens la discipline mathématique en seconde. Alors évidemment, ce qui relève du niveau technologico-théorique n'est pas du même ordre que ce que je vous ai montré dans les fondements de la géométrie de Hilbert, hein, c'est évident. Il est possible qu'il y ait des éléments théoriques qui soient non questionnés, qui soient des allants de soi, qui soient considérés comme tels. Voilà donc un petit peu en quoi peuvent me servir ces notions d'organisation mathématique pour essayer de regarder un petit peu les programmes, comment ils sont organisés justement au niveau des connaissances mathématiques à travers un seul programme ou à travers plusieurs programmes courants sur plusieurs années. Et je finis en passant la parole à Robert. Ça va ? Eh oui.
Bah, tout ça pour dire que dans le travail en paire, ce qu'on essaye de faire, c'est de rechercher des questions à fort pouvoir générateur d'études et de recherche qui permettent de motiver et de produire des parties du programme à enseigner et que... On va reproduire en quelque sorte le schéma qu'on vous a déjà présenté, mais on va peut-être le commenter un peu plus qu'on ne l'a fait. C'est-à-dire que on va partir éventuellement du programme, on va le lire en décomposant en termes de sujet, thème, secteur, domaine. Discipline, c'est bien sûr les mathématiques. On va essayer de rechercher des questions à fort pouvoir générateur d'études en remontant au niveau de secteur et domaine. Ce matin, je vous ai présenté un petit exemple de ce qu'on a fait en géométrie avec les trois grandes questions qui sont pour nous génératrices d'études. Détermination de grandeur géométrique, construction géométrique et puis repérage. Et non pas comme on a pu le faire un certain temps, à savoir chercher des activités particulières au niveau des sujets. Alors, ceci dit, on n'a pas commenté complètement... Oui, voilà. On n'a pas commenté complètement ce schéma qui peut paraître relativement banal. On le doit aussi à Yves Chevalard, mais ce schéma, il l'a élaboré pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui autorise? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui interdit que telle ou telle pratique puisse se développer? Par exemple, en classe de mathématiques, comme vous êtes en classe de mathématiques, vous devez faire des mathématiques. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de questions, dès lors qu'elles ne seront pas repérées comme des questions mathématiques, vous aurez du mal à faire vivre en mathématiques. Par exemple, qu'est-ce que tirer au hasard dans une population ? Ben, en ce qui me concerne, j'ai enseigné les probabilités et les statistiques dans une école d'ingénieurs. Tirer au hasard, me semble-t-il, n'est pas une question qui est véritablement traitée au lycée. Parce qu'elle est diantrement difficile si vous avez à la mettre effectivement en œuvre dans une population. Ensuite, toujours dans les disciplines, ce matin on évoquait la géométrie. Bah, par exemple, soit à déterminer la hauteur d'un bâtiment, bah, moi je ne saurais pas faire, parce que là où je ne saurais pas faire, c'est que je me sentirais démuni d'instruments pour sortir dans la cour et aller faire des mesures. De quels appareils j'aurais besoin pour faire des mesures ? C'est pas le matheux qui traite ça, c'est pas de notre sort, c'est de quelqu'un d'autre, c'est le géomètre par exemple qui fait effectivement les mesures effectives, il nous les donne et ensuite, quand on les a, on peut effectivement appliquer des mathématiques. Les exemples comme ça seraient multiples. Par exemple, j'ai un autre exemple, là j'ai une prof de, qui participe à l'équipe Ampère, il travaille sur la notion de fonction en troisième, et qui est partie sur l'idée suivante, est-ce que je peux utiliser, parce que semble-t-il dans les programmes de collège on suggère de le faire, d'utiliser des thèmes de la vie courante, et en particulier des choses qui touchent à la sécurité routière, et elle a pris comme sujet d'étude avec ses élèves le taux d'alcoolémie dans le sang. Pour introduire la notion de fonction. Ben, lorsqu'on se pose des questions sur le taux d'alcoolémie, qu'on essaye d'y penser sans penser nécessairement mathématique, ben, une première question qu'on peut se poser, on peut considérer que le taux d'alcoolémie c'est une grandeur qui est variable. Et en termes de variabilité, qu'est-ce qui le fait varier ? Quelles sont les causes qui provoquent la variation du taux d'alcoolémie ? Ben, c'est une question en mathématiques qu'on se pose rarement lorsqu'on a une grandeur qui varie, de se demander quelles sont les causes qui vont la faire varier. En physique, c'est au contraire un problème usuel. Ensuite, ça c'est la remarque un peu sur la discipline. Les mathématiques, en quelque sorte, nous autorisent à faire un tas de choses, mais d'une certaine façon aussi, elles nous interdisent à poser certaines questions parce qu'on n'a pas les éléments de réponse. C'est d'autres secteurs disciplinaires qui prennent en charge ces réponses. Par exemple, toujours en statistique, comment élaborer un questionnaire pour procéder à une enquête auprès d'une population ? C'est des questions difficiles que nous ne savons pas traiter. Du moins, ça ne fait pas partie de notre formation. Ensuite, au niveau de la... Alors ensuite, au-dessus des disciplines, vous avez la pédagogie. Ce qui est pédagogique, c'est ce qui va être de l'ordre de l'organisation pédagogique dans un établissement scolaire comme un collège ou un lycée. Ce matin, on a fait déjà référence à une des contraintes pédagogiques, c'est que la classe, par exemple, est découpée en heures et que la tendance à l'heure actuelle est effectivement de faire qu'en une heure soit traité un sujet. Ce découpage en heures a une certaine incidence sur le fait qu'on traite plutôt des sujets que des questions qui relèvent d'un secteur ou d'un domaine. Ensuite, et là on peut apprécier à l'inverse peut-être l'aspect positif des choses, vous avez une classe en charge, c'est-à-dire un collectif d'élèves, c'est pas tout à fait la même chose que vous aviez des cours particuliers. Alors vous devez piloter une classe, vous devez piloter un collectif, sans oublier que c'est ce collectif qui compte et pas les élèves en particulier. Ceci dit, une classe collective, un collectif, il y a des avantages, par exemple pour la production d'idées, que vous n'auriez pas avec un seul élève. Je dirais rien de plus sur les niveaux supérieurs, école, société, civilisation, mais peut-être que Yves a davantage de choses que moi à dire là-dessus.
Oui, peut-être. Par exemple, si on reprend l'exemple de la fluctuation d'échantillonnage. Bon. Voilà quelque chose. En fait, cette grille-là, c'est une grille des niveaux de co-détermination didactique, c'est-à-dire qui détermine à la fois les conditions et les contraintes sous lesquelles peut se dérouler l'enseignement des mathématiques avec des niveaux qui pèsent, qui interagissent les uns sur les autres. Alors si je reprends l'exemple de ce matin, là, de tout à l'heure, pardon, il est évident que, comment le professeur va faire pour enseigner la fluctuation d'échantillonnage ? Bon, évidemment, il peut recourir au G2D, hein, c'est possible. Mais enfin, moi, je me souviens de Joël Briand, un de nos collègues didacticiens, qui avait repris avec une classe de seconde la fluctuation d'échantillonnage au niveau des, je sais pas si, des bouteilles. de Guy Brousseau. Alors, je vous explique un petit peu l'expérience, d'accord ? Dans une bouteille qui est opaque, on n'y voit rien, mais le bouchon, lui, est transparent. Il y a 5 billes. Il y en a des blanches et il y en a des noires. Mais on ne connaît pas la proportion des blanches et des noires. Et évidemment, on demande aux élèves, sans ouvrir la bouteille, de déterminer combien il y a de blanches et combien il y a de noires. Bon, et assez rapidement, ils vont... Alors, comme on dit qu'il y en a 5... Ils font 5 essais, en règle générale, ils penchent la bouteille. Bon, vous imaginez dans une classe de lycée de 35 élèves, le bruit que ça fait, ça, par exemple. Hein. Alors, Joël Briand l'a repris avec un groupe de modules de seconde. Bon, ça faisait une demi-classe. Et j'ai vu le film.
Moitié de bruit.
Ça faisait moitié de bruit. Mais c'était déjà pas mal, hein, quand même. Voilà. Alors, donc, voilà une expérience au niveau pédagogique. Vous avez votre voisine d'à côté, votre collègue d'à côté, qui entend un raffut infernal, la classe qui, bon, etc. On imagine un petit peu le chahut que ça peut faire. Et voilà que, au niveau, alors, ceci, évidemment, est compensé maintenant par le fait qu'on a des calculatrices scientifiques dans laquelle il y a la touche random, qui est vraiment extrêmement silencieuse, et qui vous donne des nombres au hasard, aléatoires. Eh bien, cette possibilité d'enseigner la statistique inférentielle en seconde, quand même, quand on l'a injectée au niveau de Claudine Robert, c'était en 2001 ou 2002, 2001 si mes souvenirs sont bons, elle s'appuie fortement sur cette possibilité technique-là. C'est-à-dire que, bon, auparavant, peut-être que ça aurait été un petit peu plus scabreux d'enseigner cela. Et puis, il y a aussi un niveau de détermination, c'est que on fait manipuler les élèves. Bon, on n'est plus dans une pédagogie de l'élève passif qui reçoit le cours sur les intervalles de confiance, etc., le qui deux, bon. Mais on est dans un style de pédagogie active, c'est-à-dire que vous avez le poids de la société qui pense son école et qui pense comment l'école doit être organisée, qui va se traduire jusqu'au niveau du cours de mathématiques à travers, par exemple, ce dont on parlait ce matin, les activités. Les élèves doivent être actifs. Voilà un mot d'ordre qui relève de la société, qui pense son école ou même de la civilisation. Voilà. Donc, c'est aussi parce qu'on est dans une civilisation qui est à la fois bâtie sur le développement des techniques, le marché, etc., qu'on a maintenant des calculatrices à des prix relativement bas. Moi, je me rappelle les premières calculatrices qui faisaient les 4 opérations et la racine carrée, les 5 opérations étaient relativement coûteuses, donc c'est à la portée de tout le monde. On voit donc que la civilisation va influer sur la manière dont on va enseigner et ce que l'on va enseigner, d'une certaine manière. Alors, ça pèse à certains niveaux. Voilà. Bien. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire